Le gang des hystériques.
Le gang.
Bim.
La question est que les femmes veulent se prendre en main elles-mêmes.
Je veux montrer justement des femmes noires dans leur pluralité, dans leur complexité.
La plupart d'entre vous le sentent.
Attendez-vous.
Ils savent qu'on ne peut empêcher les avortements
sur
des
teintes.
Bonjour à toutes, à tous et aux autres et bienvenue sur Le Gang des Hystéries, émission que vous pouvez écouter en podcast sur le site de Micro Rebelle et tous les troisièmes lundis de chaque mois sur PFM 99.9 à 22h30 et vous avez des rediffusions pendant toute la troisième semaine. Aujourd'hui avec moi il y a Lily.
Hello.
Et il y a Sarah.
Coucou.
Alors, avant de parler de sujet qui est un peu trop souvent récurrent dans l'actualité, parce qu'à chaque fois, il y a une nouvelle affaire qui ressort là-dessus, nous allons faire, comme d'habitude, un petit tour vers l'agenda féministe du Pas-de-Calais et même du Nord-Pas-de-Calais, avec tout d'abord le planning familial qui fait, en lien avec Cirque en Cavale, un karaoké féministe le vendredi 19 novembre dès 19h et c'est à Calonne-Ricouart. Alors Lily, tu voulais faire un petit speech
oui.
Là-dessus.
Oui, c'était aussi pour revenir sur l'organisation du mouvement planning familial. Puisque du coup c'est un mouvement, parce que par exemple il y a des planning familiaux, des associations planning familiales un peu dans tous les départements, ou presque. Et donc là dans le Pas-de-Calais, donc le siège du planning familial est à Lens, et donc il y a beaucoup d'activités plutôt sur l'ex-bassin minier. Mais comme ces militantes, militants sont un peu répartis sur tout le territoire, on peut construire des fois des groupes locaux quand on est plusieurs sur un même territoire. Et donc, par exemple, on est quelques-unes et quelques-uns à construire un groupe local dit cabalaire pour communauté d'agglomération Béthune-Bruay-Artois-Lys-Romane.
Lillère, non
Béthune-Bruay-Lys. Non, Artois-Lys, Romane-Cabalaire. Non, c'est pour ça. Alors,
Cabal.
Alors, bébé, c'est Bruay, Béthune-Bruay.
Elle.
Non, il y a A d'abord. Artois. Lys. Elle. Lys. Romane. Et effectivement, il y a Lillère dedans.
Oui,
oh, oui, d'accord.
Je croyais que
mais c'est cette grosse agglomération qui va effectivement de Bruay jusqu'à passer Lillère. Je me demande s'il y a
Il y a plus de 100 communes, je crois, qui sont regroupées.
C'est une des plus grosses agglos.
Allez faire un petit tour sur Google.
Oui, enfin, voilà.
Ça sera plus simple.
Et donc, on est quelques-unes depuis quelques années à monter un peu des actions. Sur le territoire, donc soit avec des professionnels, soit juste des actions au grand public. Et on veut un peu se faire connaître, on veut être rejointe par des gens qui auraient une sensibilité féministe et qui se trouveraient être habitants, habitantes de cette cabalaire. Et donc l'occasion de se rencontrer autour d'une activité ludique. Voilà, on aime bien un peu... se marier.
Et chanter faux.
Oui, oui. Alors, ceux qui chantent juste ont le droit de venir aussi. Voilà, parce que voilà, on est inclusif. Hein. Pardon. Mais ceux qui chantent faux pourront chanter également. On a prévu des trucs à lancer à celles et ceux qui chantent super bien pour éviter qu'elles s'installent trop sur la scène. Non, je plaisante. Mais bon, donc voilà. Donc, à partir de 19h, on le fait en...
Parce qu'il y a une scène, en fait.
Non, parce que ça me fait peur.
Mais non,
mais
c'est devant l'écran.
Voilà, c'est devant l'écran, il y a un micro et tout. Et c'est sous un chapiteau de cirque, le chapiteau qui servait à la SMOB. Peut-être que ça dira quelque chose aux auditrices et auditeurs.
Le chapiteau.
Voilà, le chapiteau. et donc, Cirque en Cavale nous accueille et passe cette soirée avec nous. Il y a l'occasion de manger et boire sur place. C'est compatible pour les familles, pour les enfants. Ils pourront chanter aussi. partir du moment où la chanson est à un point de vue féministe, LGBT, ou un intérêt...
Oui, votre enfant pourra chanter Libéré, délivré.
Oui, bah, oui, là je pense qu'on n'y coupera pas, mais on ira en joie, hein. Moi j'irai en joie. Hein. Libéré, délivré, ça me va très bien.
On pourrait faire un point d'ailleurs sur ce film. Est-ce qu'il est vraiment féministe? Je ne sais pas.
On travaillera là-dessus. On travaillera là-dessus.
Plus LGBT, je pense.
Et il y aura des jeux, des petites animations, des choses comme ça. Et ce sera l'occasion aussi de partager peut-être les envies de se revoir et comment on pourrait se revoir.
Et c'est pas juste chanter. Il y a aussi, enfin, c'est sur les thématiques du planning en général. Donc c'est pas juste se voir et juste se voir pour se voir. On va pouvoir parler de plein de choses, égalité femmes-hommes, tout ce qui est santé sexuelle, questions LGBT, etc. Donc voilà. C'est très divers et varié.
Voilà, voilà. Donc on vous attend à partir de 19h près de l'étang de Kenem, donc à
Calonne-Ricouart.
Le 25 novembre.
Le 19 novembre. voilà, donc il y a un grand parking. Juste quand vous passez l'étang, il y a un grand parking. Et vous pouvez vous garer là. Et après, il faut cheminer un peu derrière la grande salle quand vous apercevez les chapiteaux. Et découvrir tout l'espace de Cirque en Cavale, qui est une école de cirque. Une passionnante école de cirque.
Merci Lydie. Donc, Sarah, le 25 novembre cette fois-ci, qui est un jeudi si ma mémoire est bonne. On a le collectif qui regroupe le planning familial et d'autres associations comme Solfa ou le CIDFF. Qui
Amnesty International, oui,
il y en a plusieurs. Donc, ouais. Je crois qu'il y en a 7 ou 8, mais je ne les ai plus en tête, donc on va faire le strict minimum. Donc le collectif du 25 novembre qui fait comme d'habitude la journée Stop aux violences faites aux femmes. Cette année, ça se passe à l'Arc-en-Ciel, à Liévin, donc en lien avec la journée de lutte contre les violences faites aux femmes, qui est le 25 novembre. Donc, il y aura, en journée, c'est plutôt pour les lycéens. Je crois que cette année, ce sont des lycéens qui viennent voir les différentes animations. Et en début de soirée, on va avoir plusieurs événements. Un défilé de l'émancipation fait par l'association Vestali. On a aussi une pièce de théâtre de la compagnie La Belle Histoire. Et on va avoir aussi un temps de convivialité et une discussion qui seront animés par le CIDFF et Solfa sur les questions des violences faites aux femmes. Pour avoir déjà participé plusieurs fois, c'est quand même des soirées qui sont très intéressantes, très riches en discussions et en enrichissement personnel. Et on vous propose d'y assister et c'est gratuit.
Un bon argument.
Oui. Et c'est donc à l'Arc-en-Ciel à Liévin, place Gambetta. Et je crois qu'il y a le parking juste en face. Donc il y a de quoi se garer.
D'accord.
Et pour terminer sur l'agenda, il y a comme chaque année. Alors l'année dernière, il n'y avait pas à cause des histoires de on ferme, on ouvre et tout ça. Mais cette année, ça va y être. C'est le banquet de la Saint-Sida qui va se dérouler le 4 décembre, samedi 4 décembre cette année. Donc toujours au Prato, si je ne dis pas de bêtises. Et donc pareil, un regroupement associatifs, le centre LGBT, J'en suis, j'y reste, de Lille, le planning familial et les sœurs de la perpétuelle indulgence, le couvent du Nord, qui font ce que certains appellent le Noël des Gwyn PD trans. Donc c'est le petit moment où on se regroupe pour parler du VIH, mais pas seulement du VIH, avec une soirée. Donc normalement, il y a une pièce de théâtre plus une messe des sœurs avec un... Avant, il y avait un banquet convivial, je ne sais pas comment ils vont faire ça, mais il y a un moment où on va pouvoir se poser, discuter et se retrouver autour de cet événement qui regroupe beaucoup de personnes. Et donc, si vous souhaitez assister, il faut contacter le J'en suis, j'y reste. C'est eux qui réservent il faut réserver les places pour si on souhaite assister à ce banquet de la Saint-Sida.
Voilà, puisqu'il faut toujours continuer de parler de l'épidémie de sida, hein. C'est pas parce qu'il y a eu l'épidémie de
VIH,
de Covid, que les autres épidémies n'ont pas disparu,
ouais.
Ont disparu plutôt. On a peut-être quelques nouvelles, il y a eu quelques avancées.
Alors, dans les progrès, alors, comme tu dis, effectivement, la Covid a un peu occulté toutes les...
Le Covid.
Ouais, ouais. On a changé. Ouais. Ça, non, c'est masculin.
Ouais, on s'en fout des académiciens qui se décidaient que c'était la Covid, il n'y a pas de raison. Et on se tape déjà tous les ouragans, c'est déjà que des noms de gonzesses. Donc non, ce sera le Covid.
Voilà. Alors, c'est une tempête qui est féminin, un ouragan est masculin.
Ah voilà. Bon, les...
En tout cas, ce sera
le Covid. Alors le Covid, effectivement, ça a un peu occulté tout ce qui s'est passé au niveau santé dans le monde, mais on a des en avancée, on a différentes choses. Tout d'abord, au niveau des traitements, on a des premiers essais cliniques sur des traitements pour les personnes séropositives où elles n'auront plus à prendre leur cachet tous les jours, mais ça serait une piqûre tous les mois, voire tous les deux mois. Sous le même principe, il y aurait des tests de PrEP. Donc la PrEP, c'est les médicaments, cette fois-ci, pour les séronégatifs, donc pour ne pas l'attraper si on a un rapport sexuel non protégé. Pareil, c'est le même principe. Normalement, pour l'instant, c'est un médicament tous les jours à prendre régulièrement ou en discontinu, c'est-à-dire que quand on a des rapports sexuels non protégés, pareil, le principe serait qu'il y aurait une injection tous les mois ou tous les deux mois seulement. Donc plus la contrainte du médicament à prendre tous les jours. Et donc, grâce à l'épidémie du Covid qui a permis de brasser combien, Lily, tu m'as dit tout à l'heure, au niveau monétaire mondial.
Je crois qu'il y a déjà quelques mois, on parlait de 3 milliards ou 30 milliards, tu veux que je vérifie?
Donc plusieurs
milliards. On n'est plus à ça près. Hein,
plusieurs milliards de dollars investis dans la santé en lien avec le Covid. Il y a des chercheurs qui ont réussi à mettre au point, alors que ça fait plus de 20 ans qu'on attend ça, qui essaieraient de mettre au point un vaccin ARN messager, mais cette fois-ci dirigé vers le VIH, tout comme il est dirigé vers le virus du Covid.
Oui. Alors, donc c'est ça, hein. C'est l'OMS qui parlait de 30 milliards de dollars pour lutter contre le Covid. Je pense que là, quand on est encore un peu en plein milieu, on n'aura pas les chiffres exacts, mais on sait que les laboratoires, les chercheurs ont été noyés d'argent, et notamment d'argent public, pour cette recherche, qui montre donc une certaine forme d'efficacité. Alors, on ne va pas entrer dans les polémiques, genre est-ce que toutes les phases tests ont été scrupuleusement respectées ou autre. Ce n'est pas le propos aujourd'hui de l'émission, mais je pense que l'illustration que tu voulais faire, c'était de quand on met 30 milliards sur un sujet, magie, on a des solutions, et que donc depuis 40 ans, on aurait pu mettre ces 30 milliards également sur la lutte contre le VIH, et on aurait probablement pu avoir une solution bien avant, et notamment l'ARN messager, qui est quelque chose qui est connu depuis très longtemps.
Il me semble au moins une dizaine d'années.
Enfin, le vaccin ARN messager existe depuis un moment dans les faits, mais qui n'avait jamais été appliqué au VIH.
Ouais, on connaissait la technique, ouais. On pouvait présupposer qu'elle fonctionnait. Je pense que c'est plus que 10 ans même.
Mais alors peut-être qu'il y a 10 ans, on a commencé à utiliser, à faire des tests en tout cas.
Voilà,
ça, c'était déjà connu avant.
Voilà. Oui. Et d'où l'efficacité, du coup, d'un coup, les mêmes équipes qui publient leurs recherches et leurs difficultés depuis des années. Là, si d'un coup, elles reçoivent 30 milliards de dollars, évidemment. Et puis que tous les cerveaux du monde s'y mettent en même temps, nécessairement, ça donne des résultats, quoi. Et donc, on aurait... en tout cas, ça montre que ce que réclament les associations de défense... des malades, mais peu importe, hein, j'ai envie de dire la maladie, hein, que ce soit le VIH, mais le paludisme, d'autres qui sont, toutes les maladies dont les pouvoirs publics ne s'emparent pas, parce que c'est pas très rentable, c'est pas très intéressant, toutes celles-là, si elles étaient appuyées financièrement, on pourrait avoir des traitements et des buts de solutions.
Et oui.
Il y a des articles scientifiques qui datent de 2006 sur le vaccin ARN messager.
Oui.
Donc, ça fait déjà un moment qu'on le sait, mais il faut des sous pour débloquer tout ça.
Bah ouais, c'est pas donc, magique. C'était quoi l'histoire ? Il faut de l'argent magique. Il n'y a pas d'argent magique. Bah, apparemment, si, ça marche quand même.
Bizarrement, on sort plusieurs millions, voire des milliards parfois, et tu te demandes d'où se vient cet argent. Donc, voilà pour le petit agenda, mais également un petit peu d'actualité. Et donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, on va parler d'un thème qui revient un peu trop souvent, malheureusement, dans l'actualité. C'est, pas le lien, mais en tout cas, parler de consentement et, au final, de la culture du viol qui existe là-dedans. Et on va commencer déjà par une définition. Je crois que c'est dit...
Consentement dans la... Puis nous, on a envie de le faire dans la culture populaire, parce que finalement, c'est... C'est ce qui nous permet
de traiter le sujet.
De traiter le sujet, puis d'avoir des exemples concrets sans sans partir à la base de témoignages qui peut être plus... plus violent, enfin on va, voilà, on va foutre un peu la paix aux victimes et tout. Et donc, mais dans la culture pop, on a plein d'exemples de démonstrations négatives comme positives de cette culture.
Et puis justement, la culture populaire, en fait, c'est au-delà même de l'actualité ou des informations, c'est à travers la culture populaire qu'on vit, en fait. C'est ça qui nous fait plaisir. On regarde des séries, on regarde des films, on écoute de la musique, etc. Et tout à l'heure, tu vas nous parler de la série H24, là, qui est sortie tout récemment sur Arte. Lola Lafont, une des réalisatrices de H24, que j'ai vue en interview sur Arte également, disait bien que c'est grâce aux histoires qu'on peut changer le monde et qu'on peut changer nos points de vue, nos rapports aux autres, d'où l'utilité aussi d'évoquer la pop culture. Voilà.
Oui, puis ça nous construit. On a déjà vu dans notre émission, mais c'est théorisé dans les études de sciences sociales, sciences de l'éducation. Effectivement, on construit un imaginaire par les histoires qu'on se raconte et donc par les différents biais de se raconter les histoires. Ça peut être la littérature jeunesse, comme plus tard.
On est façonné par les histoires. Voilà. C'est ça qui nous aide à nous projeter, nous, dans notre propre futur, notre avenir, ce qu'on veut être. Et du coup, comment on est par rapport aux autres aussi.
Oui. Et d'où l'intérêt de... Et c'est ce que réclament les associations... comme féministe, LGBT et tout, c'était d'ouvrir le champ des possibles et de laisser de la place à différentes histoires, contrairement à une culture dominante qui, de manière traditionnelle, laissait une place bien plus écrasante aux histoires donc hétérosexuelles. Bon, là, en Europe, aux histoires de personnes blanches, de culture chrétienne.
Et toutes portées par un regard masculin, ce qu'on appelle en anglais du coup le male gaze, qui du coup oriente d'une certaine façon l'appréhension qu'on va avoir du corps féminin, notamment.
Voilà, par exemple. Donc oui, alors est-ce qu'on vient d'abord sur la définition du male gaze ou alors on démarre...
On commence avec le consentement.
Plutôt le consentement, parce qu'en plus tu avais trouvé une définition qui était un peu bancale au final.
Oui, parce qu'on s'est amusé, parce qu'il y a un exercice assez rigolo à faire, c'est d'abord de quand il y a un mot sur lequel on veut travailler dans ces questions un peu de société, c'est assez amusant de d'abord regarder la définition... littéral, donc Larousse, Petit Robert et tout, donc du coup de la manière dont on pense le vocabulaire et qui est pensé le plus souvent du coup par des hommes, donc sans faire de jeu de mots sur le fait que le Petit Robert il s'appelle le Petit Robert quoi, mais
en tout cas,
et qu'en face on a le Larousse, enfin le dictionnaire Larousse.
Mais en tout cas, voilà, quand on tape consentement, quand on recherche consentement dans le Robert, la première définition qui peut venir, c'est un acquiescement donné à un projet, une décision de ne pas s'y opposer. Et c'est déjà, oui, comme tu le disais, un peu bancal, une décision de ne pas s'y opposer. Moi, ça m'a tout de suite fait penser à si on ne s'y oppose pas, bon, c'est oui. Donc, qui ne dit, et du coup, on glisse très rapidement sur le qui ne dit mot consent. Et voilà, cette expression, ce dicton français, qui ne dit mot consent, est largement reconnu, largement intégré dans les relations sociales. Bon, dans toute négociation, on se dit régulièrement, si elle n'a rien dit, si lui, il n'a rien dit, c'est qu'il est d'accord. Et en fait, on voit bien que dans la sexualité, c'est extrêmement problématique et que cette définition-là, ne permet pas en fait de clairement définir ce que peut être le consentement.
Plus encore dans une société dans laquelle les femmes, enfin les filles, sont éduquées pour devenir des objets de désir, qui du coup intègrent en elles le fait qu'il faut souvent consentir pour être aimé, et que du coup, qui ne dit mot consent, donc on pourrait, enfin du coup l'homme allez, on y va, pas de problème. Alors qu'en fait, il faudrait que, au niveau d'éducation, en tout cas des filles aussi, il y ait une éducation sur est-ce que tu as envie de ça ? Est-ce que vraiment être un objet de désir, ça va construire qui tu es en tant que personne ? Bon. Je me suis un peu perdue là.
Et même éduquer les garçons en mode limite, demande 2-3 fois si elle est OK pour le faire et pas juste qu'elle te dise oui parce que pour te faire plaisir.
Oui, alors après, du coup, la limite, elle est un peu compliquée. Quand tu le demandes deux, trois fois, c'est-à-dire que première fois, on dit non, deuxième fois, on dit non, puis bon, à la fin, voilà, non, c'est bon, on va dire oui, parce qu'il nous saoule.
Oui, il y a de ça, mais est-ce que le premier oui, il est vraiment vrai, ou est-ce que c'est juste pour faire plaisir aussi ? C'est pour ça que c'est un peu compliqué.
De toute manière, je pense que la notion de consentement est très, très complexe. Et c'est pour ça que du coup, on en parle beaucoup et qu'on n'arrive pas trop à se décider sur quoi, parce qu'en fait, le consentement, donc on va dire oui ou non, mais après, on a des consentements qui peuvent être oui ou non, mais qui ne sont pas dits, et qui ne sont pas dits aussi parce qu'on n'arrive pas à conscientiser le fait qu'on ait envie ou pas de passer du coup à l'acte sexuel. Parce que souvent, dans l'éducation des filles, ça va être tu es l'objet de désir, donc vas-y.
On est supposé. Voilà, on est très souvent supposé être à disposition ou être d'accord, et que du coup l'intégration de ce fait, il nous conditionne, il conditionne les filles et les femmes à être très régulièrement réinterrogées sur ce consentement, cette notion de désir. Donc c'est vraiment un apprentissage qui devrait être fait, j'ai envie de dire, dès le plus jeune âge. Moi, je me suis
posée... Mais qui ne se fait pas, puisque justement, à cause de la culture populaire, on a l'idée toujours que la fille doit être aussi soumise, gentille, accepter ce qui lui est demandé, que de toute manière, le masculin sera là pour diriger, pour ordonner, et qu'elle, elle est là pour faciliter les choses, on va dire.
Après, dans les couples homosexuels, c'est la même chose. Hein, quand il y a... Enfin, les couples, les rencontres homosexuelles, en tout cas, deux garçons ou deux femmes qui vont se rencontrer et où un a un peu plus le dessus que l'autre parce que l'autre est plutôt timide ou quoi que ce soit, il peut facilement y avoir un rapport de domination qui se met en place et donc le consentement, il n'y est pas et il y a quelque chose qui est forcé et on arrive forcément à de l'agression, voire du viol. Donc ça peut exister aussi dans des couples homosexuels.
Oui, bien sûr.
Effectivement, sortir de l'hétérosexualité n'annihile pas les rapports de domination.
Ouais, donc, exactement.
Là, c'est clair. Et que de toute façon, les personnes, peu importe leur orientation sexuelle, sont le fruit d'un parcours, d'une éducation, de rencontres. Et où on l'a dit, comme on est très peu éduqué aux questions de sexualité et de consentement, finalement, peu importe l'orientation sexuelle qui sera la nôtre, c'est vraiment différents facteurs qui feront qu'on soit capable à la fois de connaître son propre désir et de repérer son consentement ou sa contrainte, comme de l'exercer sur quelqu'un d'autre. Je proposais ce qui est pas mal aussi, il faut se méfier par exemple de tout ce qui est un peu Wikipédia, parce que du coup c'est effectivement une construction collective de définition, donc ça peut parfois être problématique, mais en tout cas là, pour quelque chose d'assez généraliste, le consentement sexuel était défini comme un accord que des personnes se donnaient mutuellement pour qu'une activité sexuelle ait lieu entre elles. Donc on parle bien quand même d'accord qui du coup suggère une verbalisation, par exemple. On nous dit que cette notion serait anglo-saxonne et émergée dans les années 80. Là, il faudra qu'on voit, mais en se disant que les femmes finalement étaient plutôt considérées comme des biens appartenant à un homme. Bon, par exemple, rattaché à l'histoire française, il me semble que les femmes obtiennent le droit au compte bancaire très tard.
C'est après. C'est avec 45, non ? C'est pas avec le droit de vote et des choses comme ça ?
Non, c'est beaucoup plus tard.
C'est plus tard encore, les comptes bancaires ? Donc oui, c'est limite d'hier, quoi.
Voilà, ouais. Et donc on voit bien que les femmes sont considérées comme des biens appartenant à un homme, souvent le père ou le mari, et que du coup, le consentement sexuel ne se pose pas. D'ailleurs, on sait que dans la loi française, le viol conjugal n'est défini et reconnu dans la loi qu'en 1995. Donc, c'est hier.
Pareil, c'est très récent.
C'est très récent dans la loi, mais en plus dans la culture populaire. C'est-à-dire, on pourrait faire un micro-trottoir pour demander tout un panel de quidam ce qu'ils peuvent penser du viol conjugal. Je pense que énormément de personnes imaginent que ça ne puisse pas vraiment exister encore, un viol conjugal, que bon, on est mari et femme ou on est en concubinage, c'est évident qu'il y a une activité sexuelle, et qui dit évidence d'activité sexuelle dit évidence de consentement, et pas comme si le consentement se posait à chaque rapport sexuel. C'est d'ailleurs une notion qu'on transmet lorsqu'on a l'occasion de faire appliquer, je reprends mon bâton de militante, là, de faire appliquer la loi de 2001 sur l'éducation à la vie affective et sexuelle en milieu scolaire, qui devrait donc exister depuis le CP jusqu'à la terminale, notamment via le biais de 3 séances d'éducation par an pour chaque cursus. J'ai dit par an, ce n'est pas 3 séances dans les 15 ans, 20 ans d'école, c'est 3 séances chaque année. On a l'occasion, quand on peut toucher un peu les élèves, de leur dire, excusez-moi, toucher au sens figuré, hein, bien sûr.
Consentement
oblige. Puis de toute façon, on fait pas ça. Même avec consentement, on fait pas ce genre de truc. Mais quand on peut aborder la question, quand on peut faire de l'éducation à la vie affective et sexuelle en milieu scolaire, c'est un point. Du coup, j'ai perdu le fil. C'est un point qu'on aborde. Quel point? Oui, du consentement, ouais. Même à chaque rapport. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a dit oui une fois à un copain ou une copine que la deuxième fois, le consentement vaut encore. Non, il se négocie à chaque fois. Donc, et ça, c'est pas...
Et le non, peu importe le moment où il survient, que ça soit avant d'être habillé, enfin, avant de se déshabiller, on va dire, ou après, le non est toujours valable. C'est pas parce qu'on est dans un lit et que, voilà, on est prêt à faire...
La chose a commencé.
Voilà, que le non n'est pas pour autant, n'est pas entendable, au contraire. Enfin, il est valable des deux. Enfin, voilà, il s'entend très bien d'un côté comme de l'autre.
Et à n'importe quel moment de la relation sexuelle, effectivement. Voilà, on a toujours le droit de changer d'avis.
Donc, tout ça pour en venir à nos films et nos séries.
Tout ça pour ça quand même.
En fait, moi, j'ai... Donc, vous avez peut-être vu passer là récemment au cinéma un film qui s'appelle « Le dernier duel ». C'est un film de Ridley Scott qui s'intéresse du coup au dernier duel de chevaliers qui a été fait en 1340 ou 1350, enfin bref, dans ces eaux-là. Donc le dernier duel qui a été organisé lors de la confrontation entre un chevalier et un autre homme qui s'affrontent sur le sujet du viol de la femme du chevalier. Donc du coup, il y a le chevalier qui est interprété par Matt Damon, qui va affronter Adam Driver. Donc Adam Driver, figure montante du cinéma. Je te la prends, Lily.
C'est pas celui qui jouait aussi dans Girls,
Star Wars, je crois. Girls, oui. Ah, ouais, ouais. Okay. Et donc c'est l'histoire, en fait, de cette femme qui est violée par un ami de ce chevalier, puis finalement qui se trouve devenir un ennemi, mais même pas forcément parce qu'il y a eu viol de sa femme. Et on a les trois points de vue différents. Du coup, on a le point de vue du mari, on a le point de vue de la femme et on a le point de vue du violaire. Au tout départ, on a plutôt le point de vue du mari. Donc, le film est très, très long. Et d'ailleurs, je préciserai que je ne le conseille pas forcément à tout le monde parce que moi-même, j'en suis ressortie traumatisée puisqu'il est très, très réaliste. Il est très violent. La thématique en elle-même est violente, mais en plus de ça, il y a énormément de scènes de combat qui sont beaucoup trop réalistes à mon goût. Donc on a au départ le point de vue du mari qui présente l'histoire. Donc voilà, il apprend que sa femme a été violée, il nous présente le rival en question, il nous présente comment il a perçu la situation, etc. Puis on a le point de vue du violeur et enfin on a le point de vue de la femme. Et
à la fin.
Bon, évidemment, on se rend bien compte que d'un côté ou de l'autre, d'autre manière, défendue ou pas défendue, la femme est toujours la victime, puisque mariée ou pas, son mari, on se rend compte à... Bon, je vais peut-être pas faire trop de spoilers, puisque au final, on sait quand même... c'est une histoire vraie, en fait. C'est une histoire qui s'est vraiment déroulée. Est-ce que je parle de la fin ou pas? Est-ce que je donne l'issue du combat ou...
Non, peut-être pas.
Peut-être à l'issue du combat, mais dire en fait comment est perçu entre chaque personnage
le consentement et le regard masculin posé sur
pour cette oui. Chose. Alors,
et ce que tu disais, Lily, en plus, c'est que la femme arrive à la fin. C'est qu'à la fin, on voit le point de vue de...
Oui, et qui est, c'est une perception du spectateur. Pour moi, j'ai trouvé que c'était dramatique parce qu'effectivement, on se rend compte que défendu ou pas défendu... elle reste la victime, quoi. C'est peu importe ce qui se passe et ce qui a pu se passer pour sauver son honneur, on va dire, entre guillemets, puisqu'au final, on se rend compte que c'est surtout le mari qui souhaite sauver son honneur
à lui. Son propre honneur à lui, ouais.
Et pas celui de sa femme. En tout cas, des deux points de vue masculins, ce qu'on a, c'est que... oui, c'est ça. C'est le mari, lui, il veut défendre son honneur. Et ensuite, on a le violeur qui, lui, présente le consentement comme, finalement, l'acte sexuel a été consenti par la femme. Mais en fait, elle voulait pas, mais simplement pour respecter les convenances, parce que il se disait bon bah voilà, elle est mariée, forcément, elle veut pas tromper son mari officiellement, mais officieusement, bien sûr qu'elle veut coucher avec moi. Mmh. Donc dans la scène de viol qui est répétée à deux reprises et qui est vraiment très très difficile à voir aussi, c'est pour ça que vraiment il n'est pas visible par tous et vraiment l'esprit
par toutes.
Oui, parce qu'en plus non, on s'identifie.
Je vais pas te contredire, mais pour prévenir les
auditrices. Oui, évidemment, en tant que femme, on s'identifie à la femme. Mmh. Enfin, bon, ou en tant que personne violée, en tout cas. Du coup, ce qu'on voit, c'est que la femme, effectivement, elle dit non à ce personnage qui a violé. Il le sait, mais il va passer au-delà de son non parce qu'il estime, de son jugement, de ce qu'il a perçu aussi durant leur rencontre qui a eu lieu bien auparavant, ce qu'il a pu apercevoir des regards, des gestes qu'elle a pu avoir envers lui, il s'est dit... Elle est forcément amoureuse de moi, tout comme je suis amoureux d'elle. Donc, même si elle me dit non, c'est pas vraiment réfléchi, je vais faire l'acte, puisque de toute manière, elle en a autant envie que moi. Et du coup, ce qui était intéressant, c'était vraiment de voir que l'interprétation masculine des gestes féminins est complètement... Ben voilà, c'est vraiment une très très mauvaise interprétation, et tout passe par le non-dit. Et c'est peut-être que là... aussi, on peut se dire qu'effectivement, le consentement, il va obligatoirement passer par la parole parce que quoi qu'il en soit, même si on peut percevoir un consentement en face qui peut être juste dans la gestuelle, s'il n'est pas prononcé, ça pose problème quand même. Ensuite, du point de vue de la femme, là, vraiment, clairement, c'est non. Elle ne voulait pas vraiment du tout cet acte sexuel. Et voilà.
Mais est-ce que tu estimes que le réalisateur a été en mesure de montrer chacun des points de vue? Ou alors, par exemple, il s'est fourvoyé en impliquant complètement qu'un regard masculin,
franchement, c'est un très bon film malgré tout. Les acteurs sont vraiment très, très bons. L'actrice principale est très fine dans l'expression des sentiments, dans le fait qu'elle exprime aussi le fait qu'elle est complètement désabusée de ce qu'elle vit, de voir que son mari, en fait, ne fait que défendre son propre honneur. Et
Donc la réalisation a compris ça. C'est pas un film de male gaze, c'est pas du tout de regard masculin.
Non, pas du tout, D'accord. Contrairement à des choses, des films ou des séries qui ont pu être faits auparavant, puisque comme je vous disais, j'ai vu tout récemment, autant vous dire ce matin, un extrait de la série Paul Dark.
Juste avant que tu passes à ça, ouais. je voulais citer quand même l'actrice du coup, et il me semble que c'est Jodie Comer, qui avait déjà été vue dans l'excellent...
The Killing Eve.
Ouais, voilà, à conseiller, où là, cette série, The Killing Eve, joue sur les codes du serial killer, dont on nous a fadé depuis 30 ans quand même, des serial killers, on en a bouffé. A serial killer. female. Voilà, une femme serial killer.
Une femme psychopathe.
Et aussi poursuivie par un policier, une policière, une détective.
Interprétée par Sandra Oh.
Oui, voilà. C'était comment les. Parce qu'ils ne sont pas policiers aux États-Unis.
Inspecteur.
Une inspectrice, ouais. C'est du Royaume-Uni, je pense. Hein, mais voilà. Et donc, cette série revisitait le genre avec quand même un regard. Féministe sur ces questions.
Ouais, mais cette actrice est vraiment très, très.
Ouais, elle est absolument géniale. Elle s'est changée d'attitude et de. Un regard, et on a l'impression qu'elle pense quelque chose et que le fait de penser quelque chose modifie complètement son visage et elle transmet l'émotion. Elle est absolument incroyable là-dessus.
Et ben on la retrouve tout aussi incroyable dans ce film, Le Dernier Duel.
Mais tu passais à
oui, parce que je voulais dire...
On peut faire une petite pause musicale
avant de parler de la série. La suite, juste après.
Juste après, le coup de cœur de notre Lily, quand même.
Voilà, comme d'habitude, avec Anne Sylvestre. Excusez-moi, je suis un petit peu moniomaniaque en musique, mais voilà, Anne Sylvestre.
Mais ça passe bien sur les thèmes qu'on...
De toute façon,
Anne Sylvestre, elle aura une chanson féministe pour tous les sujets qui nous traversent. Quoi. Enfin voilà, c'est tout. C'est comme ça, c'est le talent.
Exactement. Voilà. Donc on écoute juste une femme. Juste une femme et on revient de suite après.
Petit monsieur, petit costard, petite bedaine. Petite saleté dans le regard, petite fredaine. Petite poussée dans les coins, sourire salace. Petite ventouse au bout des mains comme des limaces. Petite crasse. Il y peut rien, c'est son dessein, quoi. Il est pas un assassin, il veut simplement apprécier ce que la nature met sous son nez. Mais c'est pas grave, c'est juste une femme. C'est juste une femme à saloper. Juste une femme à dévaluer. Je pense pas qu'on doive s'en inquiéter. C'est pas un drame, c'est juste une femme. Petit ami, petit patron, petite pointure. Petit pouvoir, petit chef haillon, petite ordure. Petit voisin, petit professeur, même baladeuse. Petit curé, petit docteur, parole visqueuse, entremetteuse. Il y peut rien si ça l'excite, et qu'est-ce qu'elle a, c'est hypocrite. Elle devrait se sentir flattée qu'on s'intéresse à sa beauté. Mais c'est pas grave, c'est juste une femme. C'est juste une femme à humilier. Juste une femme à dilapider. Je pense pas qu'on doive s'en offusquer. C'est pas un drame, c'est juste une femme. Petit mari, petit soupçon, petite incartade. Petite plaisanterie de salon, petite rigolade. Fermez les yeux, on n'a rien vu, petite souffrance. Et trembler qu'une fois de plus, il recommence. Inconvenance. Quoi, si on peut plus plaisanter, on n'a plus qu'à se la faire couper. Non, c'est vrai, il n'est pas un monstre, et c'est l'épouse qui prend la honte. Mais c'est pas grave, c'est juste une femme. C'est juste une femme à bafouer. Juste une femme à désespérer. Je pense pas qu'on doive s'en séparer. C'est pas un drame, c'est juste une femme. Mais dès qu'une femme, messieurs, mesdames, est traitée comme un paillasson, et quelle que soit la façon, quelle que soit la femme, dites-vous qu'il y a mort d'âme. C'est pas un drame, juste des femmes.
Le gang des hystériques.
Le gang.
Bim.
De retour sur le gang des hystériques. Et donc, on revient avec Sarah qui voulait nous parler d'une petite série.
Oui, donc là, on a parlé du dernier duel, le film de Ridley Scott. Et en fait, je voulais mettre en parallèle ce film qui, du coup, est vraiment conscient... de la place de la femme, de la place de l'homme, du fait que là, pour le coup, non, il n'y a pas du tout eu de consentement. Et mettre en regard ce film par rapport à une série que j'ai vue tout récemment également, où en fait, on a la même scène, c'est-à-dire la même scène de viol dans le film ou dans la série, où du coup, on a une femme qui va s'affirmer comme étant contre l'acte, qui va plusieurs fois répéter non, et l'homme en face qui va répondre oui, mais non, arrête, c'est pas vrai, je sais que t'en as envie, donc on y va. On a ces deux scènes-là dans le film et la série, et dans la série, en fait, ce n'est pas du tout traité de la même manière, c'est vraiment traité comme étant tout à fait normal. C'est donc la série Poldark qui est sortie, c'est l'histoire en fait, une histoire qui se passe au Royaume-Uni, je ne sais même plus à quelle époque, mais qui a été créée par Winston Graham. À la base, c'est un roman qui a été ensuite tourné sur 5 saisons et qui est diffusé actuellement sur Netflix. Donc, c'est une série qui s'est terminée en 2019. Et là, on en est à la deuxième saison, au 10e épisode, et on a le héros. Quand même, je suis complètement choquée de ce que j'ai vu.
Donc c'est le personnage montré comme un héros, quoi.
Voilà, le personnage principal qui va du coup violer cette femme dont il était amoureux, c'était son amour de jeunesse, et il est marié en plus, et ensuite il va retrouver cet amour.
Tu viens, lui, en plus.
Oui, bon, c'est pas... Bref. Et il va retrouver cet amour de jeunesse parce qu'elle-même décide de se marier, en fait. Elle va se remarier après la mort de son mari. Il lui dit, mais non, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas te remarier avec lui. C'est mon ennemi. Donc, du coup, bah, on couche ensemble. Ou plutôt, je te viole. Donc franchement, j'ai été abasourdie de voir ça. Ça m'a vraiment beaucoup choquée. Et je me suis dit, mais mon Dieu, mais en 5 ans, les choses ont radicalement changé. Et finalement, bah, heureusement, parce que franchement, on n'a plus du tout le même point de vue sur les choses quand même.
Voilà. Donc tu l'as dit à plusieurs... Donc, là, tu viens de dire point de vue, par exemple, ce qui est intéressant comme expression. Du coup, point de vue, et tu as dit aussi regard masculin. Et on l'a dit plus tôt dans l'émission, on avait utilisé les anglicismes male gaze, mais c'est vrai qu'on préférera utiliser les... un peu de chauvinisme, s'il vous plaît. On va parler
en français.
Français
on fait comme nos voisins québécois, on francise tout.
Voilà, on francise tout, puis on ne sait pas... Moi, personnellement, je ne sais pas aussi bien dire male gaze que serial killer. Mais voilà, c'est une parenthèse. Et donc, le regard masculin, qui peut être aussi appelé donc, une vision masculine, donc je vous refade un petit peu une petite définition, hein. Il est défini comme le fait que la culture visuelle dominante, donc dans les magazines, les photographies, le cinéma, la publicité, les jeux vidéo, les bandes dessinées, etc., imposerait au public d'adopter une perspective d'homme et d'homme hétérosexuel. Et donc, tu l'as bien noté, cette manière, ce point de vue, parce qu'on sait très bien que dans le cinéma ou dans la série télé, c'est un point de vue qui est exposé, une large différence entre un film actuel et une série. Alors évidemment, il y a des plus ou moins bons films, on trouve encore beaucoup de films avec un point de vue, un regard masculin posé sur les faits de sexualité.
Bah, d'ailleurs, un autre film justement par rapport à ça qui est sorti sur Netflix et qui avait fait scandale, je crois, il y a un an ou deux, mais malheureusement, je ne me souviens plus de son nom, où du coup, on avait une femme qui était enfermée par un homme.
Oui, c'est pas 365 oui, jours, voilà. Je ne sais pas trop quoi.
Et finalement, en fait, il la viole.
Tout le temps.
Voilà, et en fait, elle accepte, et finalement, elle tombe amoureuse. Et voilà. Tout le monde.
C'est un syndrome de Stockholm.
Voilà,
pas
c'est ça. Oui. Donc finalement, effectivement, on n'a pas que des films comme celui de Ridley Scott. Hein.
Mais il y a bien une histoire de point de vue, et donc ça participe à ce dont on a un petit peu abordé, c'est-à-dire la culture du viol. La culture du viol, c'est pas le fait qu'on ait consciemment envie de laisser perdurer des violences sexuelles et tout. Évidemment, c'est-à-dire c'est un peu. C'est un peu comme l'égalité, on interroge n'importe qui, on va dire est-ce que vous pensez qu'il faut qu'on soit égaux ? Ah oui. Puis après, quand on creuse, on s'aperçoit que oui, ben non, en fait, on va justifier les différences de traitement.
T'as un exemple institutionnel pour ça ?
Non, sinon, il faut qu'on prolonge l'émission. mais voilà, donc je voulais au moins donner une définition. Hein. Donc évidemment, il y en a plein, hein. C'est sur des faits de société, donc on peut tous se battre sur les définitions. Mais de la culture du viol, donc c'est une traduction littérale de l'expression anglaise, parce qu'effectivement, la culture anglo-saxonne a une habitude de réflexion universitaire un peu sur ces questions de société que on trouve que, alors bon, c'est mon point de vue, non, je vois vous me regardez un peu sceptique.
On t'écoute,
qu'on a un peu moins ici.
Je pense qu'il y a des termes qui viennent beaucoup de l'anglais parce que soit ça vient des États-Unis, soit ça vient d'Angleterre. Mm-hmm. Mais je pense qu'aussi pour qu'il y ait une idée qui se traverse un peu tous les pays, vu que l'anglais est aussi le...
Oui, oui.
Ou sinon, ça a été traduit en anglais pour être
après... Je pense que les études de genre, d'autre manière, ont été beaucoup plus...
Ouais. Voilà, c'est ce que voilà. Je veux dire. C'est que les études
avancées dans les pays anglo-saxons.
J'avais peur d'utiliser un gros mot, parce que là, on a sur une phase où dès qu'on parle genre machin
en France en tout cas les études de genre ne sont
j'ai trouvé
sont
mon costume pour Halloween l'année prochaine.
Je me transforme en woke, mais c'est compliqué hein, le truc, bon, enfin bref. Donc en tout cas l'expression culture du viol elle est quand même introduite par les féministes américaines dans les années 70, donc c'est pour vous dire qu'on a eu le temps quand même d'y réfléchir. Enfin bon, pardon.
Et nous, beaucoup d'autres choses.
On y arrive maintenant. Et donc, ça serait, c'est la manière dont le viol est perçu et représenté dans l'imaginaire collectif, dans une société donnée, à une époque donnée. C'est un concept qui établit que la représentation du viol dans une société dépend d'un ensemble de croyances et d'attitudes. La littérature existante sur le sujet montre que la culture du viol découle de mythes qui fausse la réalité du viol telle qu'elle est perçue par les chiffres. Voilà, selon la théorie féministe, ces mythes témoignent de la persistance des stéréotypes de genre. Donc tu l'as dit, par exemple, oui, les femmes sont supposées être disponibles et se mettre à disposition, en tout cas. Et on voit bien que le consentement, on l'avait dit sur la définition littéraire, c'était d'exprimer un accord. Mais voilà, même quand on dit non, ça ne fonctionne pas. On voit bien que c'est vraiment un mythe, quoi, le théoriser, la verbalisation d'un accord, ça ne fonctionne pas puisqu'on fait appel à d'autres représentations, notamment la représentation qui est les femmes soient cadenassées par des convenances sociétales, c'est-à-dire on serait un peu des prudasses par obligation, sinon on aurait une mauvaise réputation, on ne respecterait pas...
Donc on dit non,
donc
simplement...
on dit non pour avoir l'air de respecter la petite vitrine. Oui, j'ai dit non. Hein.
Et, je suis mariée, il ne faut pas.
Voilà. Et donc cette croyance-là permet d'être dépassée par des agresseurs en fait, qui n'entendent pas de toute façon ce qui peut être dit par les femmes. Mmh. Ouais, on est OK là-dessus.
Ouais.
Je voulais revenir sur cette culture du viol et en fonction des différentes années, parce que quand tu nous as parlé de cette scène, ça m'a fait penser à une des premières polémiques, je vais pas regarder comment on les avait classées.
On n'a pas fait d'études exhaustives.
Voilà, moi j'ai regardé la série Game of Thrones.
Mais moi aussi.
Voilà.
Moi non.
Et voilà, il y a des
Survivor.
Mais quand même, tu vas te fader les extraits.
Ah, merde. Vois,
on va te les expliquer. Et donc il y a effectivement une. Alors il y en a plein. Il y a plein de scènes de viol. Hein, donc du coup, celles et ceux qui n'ont pas encore vu Game of Thrones et qui n'ont pas envie de se farcir ça, vous pouvez passer ça.
Oui, puis la conclusion laisse à désirer aussi.
Ouais, en plus, ils ont complètement foiré. Bon, bref, ils ont foiré
pas
la
de
fin.
Divulgachage.
On ne divulgage pas, mais bon, bref. Il y a plusieurs scènes de viol, mais il y en a une en particulier qui avait fait polémique, parce que c'est... Alors, bon, il faut, pour mettre dans le contexte, il y a un couple qui fait fureur dans cette série, puisqu'ils sont frères et sœurs. Et donc, c'est un amour consanguin, je pense qu'on peut dire ça comme
oui,
ça. Hein,
oui. Oui.
Non, mais ça pourrait être incestueux aussi.
Incestueux et consanguin.
Oui, voilà. Incestueux. Donc, et ils ont des enfants. Voilà. Et ils ont des enfants consanguins, du coup. Bon, pardon. Ouais. Peut-être que je révise mes définitions, je m'excuse. Mais donc, voilà, ces frères et sœurs ont des relations sexuelles consenties. Ils sont amoureux, ils vivent une passion. Ils ont des enfants. Un des enfants meurt. Excusez-moi du divulgachage, hein, mais
tu n'as pas dit lequel.
Elle pense son chagrin, elle est affligée, enfin
bouleversée
sur le gisant de son enfant, et son frère vient et là on voit l'intervention du malgaise, parce qu'au début il lui impose une étreinte, c'est-à-dire une étreinte de consolation. Enfin, et donc, on comprend qu'elle est... je me souviens, moi, d'avoir ressenti ça, d'avoir compris que tout le monde, les spectateurs, comprendraient que là, voilà, il la contraint, il la prend dans ses bras, il la contraint. Puis finalement, quand ça passe à la relation sexuelle, au viol, et ben voilà, c'est pour ça que je dis relation sexuelle, parce que le point de vue de la caméra, le point de vue du réalisateur... a vraiment un regard masculin et peut laisser entendre que ça ne soit pas un viol par des spectateurs, spectatrices pas avertis. Moi, j'ai bien vu que c'était un viol. Voilà, elle dit non. Elle dit non, non, non. Elle résiste. Ils ont une relation sexuelle quand même. Oui, c'est un viol. Et donc, cette scène avait fait polémique. Et je voulais juste citer, hein, pour dire que oui, on n'invente pas cette culture du viol. Donc c'est une interview du réalisateur qui s'appelle donc Alex Graves, j'imagine, qui lui ne considérait pas que cette scène était un viol à proprement parler. Voilà, alors j'aime bien le viol proprement parler ou pas, enfin bref. Déjà là on pourrait disséquer tout ça, mais je vous cite, donc ouvrez les guillemets. À la fin, ça devient consenti, car tout ce qui les concerne débouche sur un truc bandant, particulièrement quand il s'agit d'une lutte de pouvoir. C'est une de mes scènes préférées. Fermez les guillemets. Bah là, on a vraiment tout ce qui est l'essence de la culture du viol. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ce réalisateur et d'autres, les spectateurs qui pourront voir ça, vont juger que c'est bandant, bon, du coup, voilà, si c'est bandant, c'est que c'est pas du viol. Alors qu'en fait, on sait que plein de mecs bandent sur du viol, la preuve. Mmh. Voilà. Et il parle de lutte de pouvoir, ou dans le fait que la lutte de pouvoir, le rapport de domination, dominer l'autre, contraindre l'autre, est bien quelque chose de bandant dans la tête de ce réalisateur. Et donc, effectivement, ça se voit dans le point de vue qu'il va imposer à sa caméra et donc aux spectateurs.
Et où la relation amoureuse est toujours une confrontation, une sorte de combat entre un homme et une femme, ou entre un homme et un homme, ou une femme et une femme. Mais en tout cas, c'est toujours une lutte de pouvoir. Et donc, on doit asservir l'autre à son amour. Et donc, on peut passer par le viol sans trop de
questions. Et que le désir naît de ça. C'est-à-dire que peut-être, on en découle le fait que s'il n'y a pas ce rapport de pouvoir, il n'y a pas de désir. Ce ne serait pas marrant, ce ne serait pas bandant.
Donc, il y aurait toujours un dominant et un ou une dominant et un ou une dominée, pour le coup, pour qu'il y ait ce rapport de pouvoir. C'est affreux de penser ça.
Ce serait bien qu'on puisse sortir de ce schéma qui, pour le coup, existe. C'est certainement vrai. De toute façon, c'est le cas, puisqu'on le consiste. Il n'y aura pas de féminisme sinon. Mais les relations entre hommes et femmes sont de toute manière dans un schéma de dominant-dominé. Et donc, du coup, puisqu'elle est dominée ou parce qu'il est dominé, on peut y aller et on peut passer au-delà de son consentement.
Ça, et puis il y a aussi le fait d'imaginer que la sexualité, elle puisse ne pas être excitante. S'il n'y a pas ce rapport de domination, c'est-à-dire imaginer... Alors qu'il y a eu une autre époque, bon, moi je suis peut-être une vieille ringarde, mais il y a eu une époque où on suscitait le désir et l'émoi chez les adolescents, les adolescentes, par d'autres ficelles que le viol. Moi je ne me souviens pas à l'adolescence avoir vu des films où il y avait des viols, mais j'ai vu, alors attention, pas trop obligé de vous foutre de ma gueule, mais quand même, je me souviens de la scène de la poterie dans The Ghost, c'est quand même autre chose, et oui il y avait du désir, Dirty Dancing, Dancing, où c'est la drague autour du corps, de la danse, le duo ensemble, et la sueur, il y avait du désir, et alors c'était pas l'objet, donc je suis pas en train de dire que dans les films Ghost ou dans le film Dirty Dancing, il y a pas des choses problématiques peut-être, mais les scènes où il y a eu conclusion, elles étaient pleines de désir, sensualité. Pleines de sensualité et tout, et il y avait pas sur ces scènes-là de contraintes. Je pense aussi même à Top Gun, pour aller dans le truc hyper kitsch. Il y avait des tas de scènes où on évoquait le sexe, on évoquait la sexualité, où c'était dans un désir partagé. Donc c'est faisable. Donc il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas poursuivre et faire une éducation autre que dans le rapport de domination.
En tout cas, le film...
Il n'y avait pas Internet. Excuse-moi, je finis juste mon propos. Il n'y avait pas la pornographie via Internet. On était quand même sur la pornographie de papa ou grand-papa, un truc pour la cassette, la VHS. C'était plus compliqué à trouver. Et il y avait un semblant de scénario. Bon, je pense qu'il y en a plein qui rigoleraient en entendant un truc pareil. Mais quand même, fallait tenir un moment, donc il y avait un pseudo-script, quoi.
Maintenant, je te rassure.
Alors, moi, je parle de la consommation d'extraits très courts, où c'est quand même vraiment un enchaînement d'actes, classique, toutes les vidéos, de fellation, levrette, sodomie, éjaculation faciale, tac, 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 comme ça, où bon, finalement, le scénario, on s'en fout un peu, dans les VHS, probablement.
Ou dans tous les cas, la femme est contrainte et asservie.
En tout cas, on ne se pose pas du tout la question.
En tout cas, juste pour dire que, heureusement, donc, du coup, le dernier duel de Ridley Scott, aujourd'hui, conscientise ce regard-là et du coup, propose quand même un film dans lequel il va justement critiquer le fait que le regard masculin va passer outre le non féminin. Et c'est plutôt une bonne chose. On peut se dire quand même que, avec toutes les différentes affaires médiatisées, avec MeToo et compagnie, on a pu quand même on arrive quand même progressivement à une certaine prise de conscience.
Oui, après, un fichu pied de biche. Moi, je pense du coup à l'actualité, là, aux 8 femmes qui sont obligées de s'exposer et de témoigner visage découvert sur les unes de magazines. Heureusement qu'elle le fasse, on les remercie. On remercie
dans Libération.
Les journaux de le faire, Libération. Mais pour que l'image de ce de tombeur et de... comment on appelle ça, un mec, un Casanova, puisse tomber et qu'on égratigne ce vernis dégueulasse.
Donc là, on parle de
PPDA, de Patrick Poivre d'Arvor, qui est accusé par de multiples... Là, il y en a 8 qui témoignent, mais il y en a d'autres. Il a fallu quand même ce pied de biche-là, quoi, et une exposition de ces dames, ce courage de s'exposer, parce qu'on sait qu'elles ne vont pas être soutenues par la majorité de la population. Ouais. On les soutient, nous, mais il y a quand même tout un tas de gens dégueulasses, hommes comme femmes, qui vont probablement les conspuer et les harceler. Mais il faut, oui, ça bouge, mais il faut quand même un fichu pied de biche. Hein, juste parce que le mec, on a vu sa tronche pendant 30 ans à la télé, ouais. Il a eu l'occasion de s'exprimer comme il voulait, et il passe pour un tombeur, et du coup, il serait responsable de rien. Quoi.
Et surtout qu'on a aussi certaines célébrités qui ont demandé aussi qu'il y ait un droit à... C'était quoi l'impunité?
Ah oui, le droit d'importuner.
D'importuner aussi. Oui, on n'est pas... S'il y a même des célébrités féminines qui s'y mettent là-dedans, ça risque d'être un peu compliqué dans tout ça.
Oui, mais ça saurait... Enfin, je veux dire, le féminisme, il n'est pas endossé que par les femmes. C'est pour ça aussi qu'il y a des hommes féministes, on les attend, il y en a. Il faudrait qu'ils soient plus souvent, plus nombreux. Mais oui, il y a effectivement des femmes qui ne sont pas féministes,
en tout cas,
et qui n'adopteront pas le
viol,
point de vue féminin.
La
féministe.
Culture du viol, elle protège justement ces hommes-là qui se créent des histoires, pour le coup, dans leur tête, en se disant « Oui, mais non, en fait, elle le veut. Je l'ai vu. J'ai vu dans ses yeux qu'elle le voulait. Donc, peu importe, j'ai passé au-delà de ça, de ce qu'elle me dit.
Enfin, ouais. Oui, et puis elle voulait la promotion et tout, donc je pouvais me permettre ce truc dégueulasse. Enfin, bon, on voit aussi qu'on a quand même un ministre qui, lui, a échangé la possibilité d'avoir un logement social contre des valeurs, des faveurs sexuelles. Donc on voit bien qu'on est en plein dedans et qu'on a vraiment un large boulot à faire. Quoi. Ouais. Mais on y travaille. Et venez nous rejoindre au planning, et notamment, par exemple, à la soirée karaoké féministe du 19 novembre à Calonne-Ricoire pour changer tout ça sur le territoire de la Cabalère.
Oh. Eh ben, merci beaucoup Lily, merci beaucoup Sarah.
Oui, Lorient.
Il y aurait encore plein de choses à dire là-dessus, mais malheureusement l'émission s'arrête. Et on voulait vous quitter sur une petite musique. Alors,
justement, tu parlais d'années 80.
Voilà, bah oui.
Là, qui est totalement dans le thème, avec un petit coucou, une petite dédicace aux sœurs de la perpétuelle indulgence qui font leur messe avec toujours un petit passage sur le consentement avec cette jolie musique de Andy.
Spéciale dédicace, hein, voilà. Copine.
Et il y a même marqué en titre en dessous la chanson du consentement, et le titre c'est Quand c'est oui, c'est oui. On vous quitte là-dessus et on se dit au mois prochain.
Ciao,
des bisous.
Ciao, salut.
Le gang des hystériques.
Le gang. Bim.